Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Timothée Mémon.
7h05, bienvenue dans l'Intégral Sport. On est ensemble 3h pour vous parler de Ligue 2 parce qu'il y a un match en cours entre l'AS Saint-Etienne et Nîmes. Un but partout pour le moment. On sera Geoffroy Guichard dans quelques instants. On vous parlera également de MotoGP avec Arnaud Souk qui est en pôle pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. À quoi s'attendre pour demain? Quartararo doit-il avoir des craintes quant à son titre? On va évidemment s'intéresser à tout ça et puis on va nécessairement aussi s'intéresser à la Ligue 1. Dans une heure, il y a un match entre Strasbourg et Monaco qui commence. Vous allez évidemment le suivre en intégralité sur RMC. Et puis on s'intéressera aussi à la rencontre de ce soir qui débute à 21h. L'entrée en lice du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ce sera à Clermont. On sera avec Valentin Jamin pour toutes les informations d'avant-match sur cette rencontre. Avant toute chose, eh bien, on va saluer Damien Tardieu. Qui est à Geoffroy Guichard. Salut Damien, un
salut
but partout
Timothée.
Pour le moment entre l'AS Saint-Etienne et Nîmes. C'était le score à la mi-temps, ça a repris.
Ouais, exactement, c'est reparti depuis 4 minutes dans un stade Geoffroy Guichard à huis clos, on le rappelle. Un but partout donc entre Nîmes et Saint-Etienne. Nîmes avait ouvert le score à la 33e sur sa première frappe cadrée par Thomas Seine. Les Verts ont égalisé un petit peu miraculeusement juste avant la mi-temps, un pénalty de Crasso. Les Verts qui se sont fait une frayeur d'entrée de deuxième mi-temps avec un bon coup franc d'Eliasson et il s'en est fallu d'une mèche de cheveux quasiment pour que Maël Degévigné, le défenseur central, ne reprenne ce ballon. Green a dégagé des points derrière. Poulain a tenté une retournée passée à côté. Pour l'instant, les Stéphanois ronronnent dans cette partie. 5 minutes en deuxième mi-temps, hein, partout.
Et Damien, la défense stéphanoise qui montre quand même quelques signes de faiblesse hein, depuis le début de cette rencontre. Giraudon pas toujours très tranchant et un Étienne Green pas nécessairement décisif à noter, à commencer par le but.
Ouais, exactement. Il aurait pu. Il touche ce ballon hein, sur la frappe croisée de Thomas Seine. Alors elle est bien placée, mais il lui manque quand même un petit peu peut-être voilà, il lui manque quelques centimètres
sur les jambes, diraient les entraîneurs des gardiens.
Ouais,
non,
c'est ça, un petit peu et en tout cas cette balle elle est venue mourir dans le petit filet pour l'ouverture du score des Stéphanois qui globalement ont quand même du mal dans la construction. Je disais l'égalisation un petit peu miraculeuse parce que certes ils ont 70% de possession à la mi-temps les Stéphanois, mais tout cela est assez stérile. Il manque de mouvement, ça manque de solution pour le porteur de balle et pour l'instant eh bien le fait d'être revenu juste avant la mi-temps est quand même une très bonne nouvelle pour eux parce qu'on voyait mal hormis ce coup du sort, donc ce pénalty suite à une main, en tout cas un bras qui traînait de la part de Benoît Poulain est vraiment tombé très à propos pour des Verts qui ont du mal dans la construction avec un effectif, on le disait tout à l'heure dans l'heure d'avant, qui est en pleine construction, reconstruction. Il y a des départs quasiment tous les jours, des arrivées qui sont attendues et pour l'instant c'est compliqué en tout cas pour les Stéphanois, un partout face à Nîmes après 6 minutes en deuxième mi-temps.
Merci beaucoup Damien, tu viens nous revoir évidemment s'il y a une évolution ou des faits notables dans cette rencontre de la Ligue 2 à la Ligue 1 et un match probablement l'un des plus appétissants de cette première journée, match entre Strasbourg et Monaco, évidemment pour nous éclairer sur le sujet de persona grata, de GOAT de la partie Est de la France, Sébastien Ruffet et Patrick Muller. Salut les gars.
Salut Timothée. Quel hommage.
C'est bien le moins. C'est bien le moins que je puisse faire.
Je veux dire, Seb, il est en lévitation là.
Non mais il sait Timothée, quand il vient commenter avec nous, il sait qu'il va passer à chaque fois un moment de légende. Donc c'est pour ça, il se dit qu'avec nous deux en même temps, ça va être extraordinaire.
C'est ça.
Alors c'est particulièrement vrai, d'autant que vous savez à quel point j'aime l'ambiance de la Méno, que je salue depuis de nombreuses années, l'une des meilleures de France, si ce n'est la meilleure. Messieurs, quelques informations peut-être sur la compo, vous l'avez peut-être pas encore tout à fait.
Alors on a celle de Strasbourg, celle de Monaco, c'est un début. Un petit peu attendre, donc on va commencer en espérant qu'entre temps.
Je rafraîchis un célèbre réseau social, mais pour l'instant, sans succès.
Alors c'est le 3-5-2 plus ou moins annoncé. Hein, par Julien Stéphan côté strasbourgeois pour débuter cette saison. Matzels dans but évidemment, la défense à 3 avec Djikou, Niamsi et Perrin. C'est comme ça qu'on a fini la saison dernière, on recommence pareil. Liénard évidemment le capitaine, 10e saison au club pour Dimitri Liénard, qui va arpenter le flanc gauche quand Pierre Gabriel arpentera le flanc droit. La sono est toujours aussi catastrophique à la Meno, je vous rassure. Le milieu à 3 avec Sanin Persic, Bellegarde, Thomasson, et devant ce sera le duo Ludovic Ajorc, Habib Diallo.
Merci beaucoup. On va évidemment temporiser un petit peu, attendre d'avoir la composition de l'AS Monaco. Elle nous intéresse nécessairement, cette composition, après le match nul face au PSV Eindhoven. Est-ce qu'on verra Mbolo titulaire par exemple? C'est l'une des curiosités de cette Ligue 1. Excellent joueur suisse, passé par Bâle notamment, puis par l'Allemagne où il avait montré de belles choses.
C'est élément de réponse.
Désespoir.
Elle tombe à l'instant même, et ça répond à ta question favorablement, puisque Mbolo effectivement sera titulaire. Il faut simplement préciser, rappeler Timothée, qu'il y a pas mal d'absents du côté de Monaco et du côté de Philippe Clément, avec les absences pour cause de suspension qui concernent Golovin et Folland. Ça concerne le secteur offensif. Il y a des blessés aussi, il y a Caio Henrique qui se remet d'un Covid. Il y a plusieurs titulaires comme ça qui auraient pu aspirer à une place pour ce match et qui ne sont pas là. On détaillera ça peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas on aura Nubel dans les buts, Aguilar côté droit, Axel Disasi capitaine dans l'axe de la défense, à ses côtés Maripane, à gauche Jacobs, Jean Lucas à la récup avec Fofana à ses côtés, Diata à droite qui fait son grand retour à la compétition, enfin en tout cas en Ligue 1, Diop également au milieu de terrain, et donc on aura Martins et Mbolo, et on ne voit pas de Wissam Ben Yedder. Ben voilà, en fait l'information principale elle tombe maintenant, pas de Wissam Ben Yedder pour débuter cette rencontre. On va essayer de se renseigner un petit peu parce que c'est quand même assez étonnant.
Alors il y a Martins, Minamino et
il y a pas Minamino. Non, il
Diata,
débute pas. Il débute Jelson pas. Martins, il y a Diata, Jelson Martins, Mbolo, Diop, Jean Lucas, mais ça c'est dans une position un peu plus.
Donc on a peut-être un 4-2-3 alors du côté de
Mbolo
Monaco. On va suivre ça de près. C'est voilà, c'est la question que je me posais en écoutant ce dispositif et cette composition. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve tout à l'heure, évidemment, quelques minutes avant le début de cette rencontre pour la décrypter ensemble, et on va parier sur ce match.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Yoann Guillet nous a rejoint. On est entre Stéphanois sur le plateau d'RMC et ça fait plaisir, en attendant qu'il marque un deuxième but. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite nous, mais ce qu'on ne souhaite pas aux supporters ni moi. Yoann, sur ce match entre Strasbourg et Monaco, quelles sont les cotes et les gros coups à tenter?
C'est très serré, Timothée. C'est 2,65 la victoire de Strasbourg, 2,85 le succès monégasque, 2,30 le résultat nul. Mais c'est un match compliqué pour Monaco à 3 ou 4 jours de son match retour sur la pelouse du PSV Eindhoven. D'autant plus que Strasbourg a conservé la globalité de son effectif et s'est bien renforcé sur le côté droit de sa défense. À la Meno, je suis bien tenté de vous proposer de miser sur un succès alsacien à 2,65. Et si vous souhaitez prendre un peu plus de risques, vous pouvez y ajouter Diallo ou Ajorc en buteur multichance. Ça l'a fait grimper à 3,10.
Pas mal, 3,10 avec Ajorc et Diallo. Peut-être l'occasion de gagner un petit peu d'argent. Merci beaucoup, Yoann.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
De Strasbourg à Dijon, il y a 6h30 de train à peu près. C'est pas du tout à côté. Donc, on va quand même y retrouver Valentin Jamin pour la présentation du match de ce soir. Match évidemment très attendu, très scruté entre Clermont et le Paris Saint-Germain. Valentin, on va te donner la parole dans cet avant-match plusieurs fois. Et on commence dès maintenant avec la possibilité de nous expliquer un petit peu à ce à quoi il faut s'attendre pour l'entrée en lice du PSG. Salut Valentin.
Salut Timothée, salut à toutes et à tous. Effectivement, je suis bien à Clermont et pas à Dijon, donc encore plus loin.
Ouais, exact. J'ai dit Dijon.
Tu as dit Dijon.
Eh oui, parce que j'ai les yeux et la tête à l'AS Saint-Etienne qui joue contre Nîmes, bien sûr, mais qui jouait la semaine dernière contre Dijon. Bref, je mélange tout. Tu es à Clermont. Alors Valentin, sur le match de ce soir, d'abord, quelle est la composition probable, peut-être côté parisien?
Alors, on s'attend clairement au même 11 qui a débuté face au FC Nantes lors du Trophée des Champions le week-end dernier, pour la simple et bonne raison que, j'allais dire, les absents et surtout l'absent principal du week-end dernier l'est encore. Pas de Kylian Mbappé ce soir, il est touché aux adducteurs, il était suspendu la semaine dernière. Christophe Galtier pensait pouvoir le récupérer, il avait évoqué son sujet en conférence de presse. Il avait dit qu'il était content de retrouver Kylian et finalement Mbappé est au centre d'entraînement. Il est en train de travailler, on a eu des infos comme quoi il y aura un point fait dans les 48 heures maintenant à venir concernant Kylian Mbappé. Donc ce serait Donnarumma dans la cage, défense à 3 défenseurs centraux, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, couloir droit Hakimi, couloir gauche Nuno Mendes, deux milieux de terrain avec Verratti et Vitinha, et Messi un petit peu en soutien, en électron libre en tout cas, de Neymar, et donc probablement de Pablo Sarabia qui a convaincu l'Espagnol pendant la préparation. À noter que Kalimuendo est sur le banc et que Ekitike, également l'ancien Rémois, fait sa première dans le groupe. Donc plusieurs options pour éventuellement compenser l'absence de Kylian Mbappé. On partirait vraisemblablement pour les Parisiens plutôt sur un Pablo Sarabia en forme.
Une équipe proche de celle qui a remporté le trophée des champions, ça pourrait être ça peut-être la patte d'un Christophe Galtier, peut-être jouer un petit peu moins avec les compositions d'équipe.
Exactement, la continuité, et d'ailleurs lui a été posée la question en conférence de presse, est-ce qu'il fallait faire du turnover, et lui a dit je déteste ce mot, ne me parlez pas de turnover. Oui, parfois il faut faire un petit peu reposer les joueurs, notamment quand l'équipe du Paris Saint-Germain jouera tous les trois jours avec la Ligue des Champions, mais la continuité c'est quelque chose qui est cher à Christophe Galtier. Et puis il y a aussi quelque chose à noter, c'est qu'aujourd'hui Christophe Galtier convoque un groupe de 21 joueurs. Mauricio Pochettino en convoquait souvent 23, 24 joueurs, avec un groupe vraiment élargi, peut-être pour ménager un petit peu les susceptibilités. Le duo Campos-Galtier, dès son arrivée, a décidé de dire à des joueurs « Nous ne comptons pas sur vous, Gay, Kerrer, Herrera, Draxler, Kurzawa ou encore Icardi, qui semble être un petit peu à la frontière et qui est absent ce soir pour des raisons personnelles, ne sont pas convoqués. Tous ces joueurs s'entraînent même pour la majorité à part. » Et donc, vraisemblablement, Christophe Galtier a envie de créer un vrai groupe, et un groupe assez restreint où on s'entend bien, où il y a une vraie dynamique, où il y a de la positivité et où surtout il n'y a pas des éléments à droite à gauche qui gravitent ou qui sont là simplement pour s'entraîner, pour profiter entre guillemets de la ville de Paris, ce qui est souvent reproché, et qui seront dans ce cas-là vraiment mis de côté. Ça peut être effectivement une des pattes de Christophe Galtier.
Christophe Galtier qui, après le trophée des champions, ne voulait pas dire qu'il y avait de match parfait, qu'il y avait des choses à travailler, notamment sur l'aspect défensif, Valentin.
Oui, évidemment. Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent depuis maintenant de longs mois quand on parle du Paris Saint-Germain, puisque quid du repli depuis l'arrivée de Messi notamment, eh bien de Messi, de Neymar et de Mbappé, est-ce qu'on n'a pas le risque d'avoir une équipe coupée en deux sur les contres menés par les adversaires de Paris? Est-ce que le système à trois défenseurs centraux du PSG avec deux pistons, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, qui sont très offensifs, ça n'est pas déséquilibré? C'est la question qui se posait l'an passé, parce qu'on voyait trop peu de courses défensives de la part des attaquants. L'équipe était souvent mise en difficulté sur ce volet-là. Ça semble être mieux sur ce qu'on a vu sur les matchs amicaux et sur le match face à Nantes au Trophée des Champions. On ne va évidemment pas s'emballer, c'est un match de préparation. Mais en conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué le sujet. Il est plutôt satisfait pour l'instant du comportement de son équipe à ce sujet.
Il y a des périodes dans des matchs où c'est très serré, très fermé, où l'équipe n'a pas encore pris l'ascendant sur l'adversaire, n'a pas pris l'ascendant en termes de score, n'a pas creusé des écarts. On doit être très attentif à ne pas donner de possibilité à l'adversaire de pouvoir nous faire courir longtemps et de long en large. Quand vous avez un partenaire qui fait un effort, évidemment que c'est contagieux et ça donne envie à celui qui est à côté, à celui qui est de l'autre côté, de faire les mêmes efforts. Et c'est là-dessus que nous devons être très attentifs et très rigoureux tant que le match n'est pas acquis.
La contagion, ou plutôt l'émulation de l'effort défensif pour Christophe Galtier. Valentin, parle-nous un petit peu de Clermont, l'adversaire parisien. Est-ce qu'il y a, côté clermontois, des raisons d'espérer plus qu'une saison pour le maintien, ou de faire douter le Paris Saint-Germain? Après, on rappelle tous la claque énorme reçue la saison dernière, 6 buts à 1 face à Paris.
Ouais, la saison dernière, 4-0 à l'aller, 6 buts à 1 au retour. Donc effectivement, en regardant ces résultats-là, il y a assez peu d'espoir pour Clermont. Quand on regarde la dynamique du PSG, c'est vrai que ça semble aussi compliqué pour les Clermontois. Ne jamais dire jamais, hein, un match peut tourner sur des faits de jeu, si Clermont marque tôt, etc. Le fait est que Clermont, effectivement, va avant tout cette année jouer le maintien. Hein. C'est un objectif qui est affiché comme l'an passé. Il y a 4 descentes, on le rappelle, cette année en Ligue 2. Donc l'idée va être de se maintenir le plus rapidement possible pour les hommes de Pascal Gastien, toujours probablement par le jeu. La petite inconnue, enfin même l'inconnu global côté Clermont, c'est l'effectif. Timothée, il a énormément changé. 9 arrivés, ça a été plutôt bien anticipé, donc les recrues ont pu s'incorporer. Mais du côté de Clermont, on a perdu Mohamed Bayo, 14 buts en Ligue 1 la saison dernière. Abdoul Samed, très bon milieu de terrain, parti à Lens. Cédric Kountondji, taulier de la défense, parti à Angers. Hakim Zedatka, Arthur Desmas, Oriol Busquets qui joue un petit peu moins. Vital Nsimba également est parti. Donc ce soir, par exemple, sur les 11 titulaires, on pourrait voir 5 nouveaux, dont dans la cage Mauri Diaw qui devrait jouer, lui qui a d'ailleurs été formé au PSG jusqu'en 2015, arrivé de Lausanne en Suisse cet été. En pointe, Andrić qui est arrivé du Dynamo Zagreb devrait commencer et aura la lourde tâche de remplacer Bayo. Il y a Maxime Gonalon qui est arrivé au milieu de Grenade. Latéral gauche, il y a le Brésilien Borges. Bref, ce sont des noms pour beaucoup qui parlent assez peu, on va dire, aux suiveurs de notre Ligue 1. Et c'est bien normal parce qu'ils jouaient à l'étranger. Et la question va être de savoir si avec cette équipe, Clermont va avoir les armes pour se maintenir. Si Clermont n'a pas perdu au change, notamment en attaque. Et si Clermont va réussir à incorporer ses recrues pour qu'ils soient tout de suite performants. Parce qu'il va falloir prendre des points et rapidement pour les Clermontois.
Effectivement, il y aura du travail à noter concernant le Paris Saint-Germain que la FFF avait dans un premier temps pas homologué le contrat d'entraîneur de Christophe Galtier pour une histoire d'étapes qu'il devait suivre dans son cursus d'entraîneur et que vraisemblablement les choses se sont réglées. Il sera sur la feuille de match ce soir. De toute façon, il y aura eu possibilité d'y inscrire un prête-nom possiblement côté parisien. Merci beaucoup Valentin, on te retrouve ce soir aux alentours de 21h pour cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Clermont. Ce sera évidemment à 21h pile pour le coup d'envoi et puis pour l'avant-match dans l'after. On va refaire un détour par Geoffroy Guichard entre l'AS Saint-Etienne et Nîmes avec Damien Tardieu.
Il reste encore 27 minutes ici à Saint-Etienne, toujours un partout entre les deux équipes et pas grand chose à signaler. Les Verts toujours en possession du ballon mais qui peinent à se montrer dangereux. Il y a des changements quand même effectués par Laurent Batles, la sortie de Crasso remplacé par Maxence Rivera côté stéphanois. On avait eu quelques minutes plus tôt l'entrée de Cafaro à la place du jeune Ayman Aiki qui a été assez discret dans cette partie. Et puis on va changer également le duo offensif côté Nîmois avec la rentrée de Benra qui avait été malade cette semaine. Il a remplacé Moussa Koné et Elias Omarsson a remplacé Malik Tchoukounté, l'ancien attaquant de Dunkerque. 25 minutes pour essayer de faire la différence pour les Verts, un but partout face à Nîmes.
Merci beaucoup Damien, c'est aussi un week-end de reprise en Première Ligue un petit peu plus tôt. Fulham et Liverpool ont fait match nul, 2-2 avec un doublé de Mitrovic pour Fulham et une entrée décisive de Darwin Núñez qui a été buteur et passeur décisif, un peu involontaire certes, mais tout de même ça compte et ça comptera dans les statistiques. Et puis les gros d'ailleurs sont en difficulté puisque il y a quelques instants Tottenham était mené par Southampton 1-0, égalisation à l'instant de Tottenham. Nous on revient dans un instant, on va parler MotoGP, on sera avec Arnaud Souk pour parler du Grand Prix de Grande-Bretagne. A tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Timothée Mémon.
Il est 16h25, de retour dans l'Intégral Sport. On continue à dérouler l'actualité sport de la journée et on va commencer par faire un tour en Ligue 2. Ça joue entre Saint-Etienne et Nîmes. Damien Tardieu.
21 minutes à jouer, toujours un but partout. Attention à la Rivera côté stéphanois qui va chercher à centrer. Ça va être sorti sans difficulté par Poulain. Les Nîmois qui ont quand même du mal à relancer. Les Verts qui appuient un petit peu plus. Petite erreur de ma part tout à l'heure. Il me semble que sur le panneau, c'était bien le numéro de Jean-Philippe Crasso qui avait été indiqué pour sortir. C'est finalement Aouchiche qui est sorti, remplacé donc par Maxence Rivera. Et on rappelle que Benraou et que Omarsson sont rentrés côté Nîmois. Les Verts qui ont la possession du ballon, toujours qui peinent quand même à se créer des occasions. Là, ça sera trop long, me semble-t-il, encore ce ballon sur le côté droit pour Sergi Palencia. Bref, Saint-Etienne ronronne toujours un but partout entre les deux équipes. On rappelle que c'est Nîmes qui avait ouvert le score à la 33e par Thomasen et que c'est Crasso sur pénalty qui a égalisé juste avant la mi-temps.
Merci beaucoup Damien. Vous signalez également que tout à l'heure à 19h, il y aura les autres matchs de cette deuxième journée de Ligue 2. Amiens, Annecy, Grenoble, Sochaux, Laval, Guingamp, Niort, Bastia, le Paris FC affrontera Quevilly, Pau recevra Dijon, Rodez recevra Bordeaux et Valenciennes recevra Le Havre. Tous ces matchs à 19h à suivre évidemment sur RMC. On va à présent parler MotoGP. Il y a le Grand Prix de Grande-Bretagne et Arnaud Souk nous a rejoint. Salut Arnaud.
Salut Timothée, bonjour à toutes et à tous.
Un peu reposé après ce tour.
Oui, très reposé même.
Eh ben, c'est une bonne chose, on est content de te retrouver en pleine forme. Cette fois, les vélos ont des moteurs et des gros. C'est la MotoGP avec évidemment un Français que l'on va suivre
de très près et qui va partir en pôle.
Alors c'est pas celui auquel tu pensais, Timothée. Pardon, c'était pas un piège. Voilà, je t'avais écrit effectivement qu'un Français avait fait la pole position, mais c'était c'est pas Fabio Quartararo, c'est Juan Zarco qui a signé donc la 8e pole de sa carrière avec un record à la clé quand même, le record du tour hein, du circuit 1:57.767. Il bat de 4 dixièmes le précédent record du circuit qui datait de l'an passé. Maintenant, il va y avoir un défi pour Juan Zarco, ça serait de s'imposer pour la première fois de sa carrière en MotoGP. Il a souvent été en pole, donc je le disais, c'est la 8e fois de sa carrière, mais il n'a jamais réussi à transformer l'essai, si j'ose dire, et à s'imposer par la suite. Donc charge à lui de tenter de le faire. Je vous donne la première ligne: Juan Zarco devant l'Espagnol Maverick Viñales et l'Australien Jack Miller, et puis Fabio Quartararo, on en parlait, qui lui appartient en deuxième ligne, 4e meilleur temps de ses essais qualificatifs. Bagnaia l'Italien est 5e, et Alex Espargaro, le dauphin de Quartararo au classement général, qui lui partira en 6e position.
Justement, Quartararo, on a l'impression qu'il roule un petit peu, et c'est le cas de le dire, sur le championnat cette saison. Est-ce qu'il doit s'inquiéter pour eh bien tout simplement pour rester à sa position de numéro 1 jusqu'à la fin de la saison?
Alors, 3 victoires hein, depuis le début de la saison pour Fabio Quartararo. Alors, il roule sur le championnat, oui et non, parce qu'il a 21 points d'avance au classement général. Ça lui fait un petit peu moins d'une victoire, hein, puisque vous le savez, les victoires sont à 25 points. Si vous le savez pas, je vous l'apprends. En tout cas, à l'issue du 9e Grand Prix de la saison, du 10e Grand Prix de la saison, pardon, le Grand Prix d'Allemagne qui s'est déroulé mi-juin, les statistiques lui donnaient 85% de chances d'être de nouveau sacré champion du monde, sauf qu'entre-temps, il y a eu le Grand Prix des Pays-Bas, Grand Prix qu'il n'a pas fini, on va y revenir dans quelques instants, Grand Prix lors duquel son dauphin Alex Espargaro a lui marqué des points, et donc on est passé d'une avance de 34 points à une avance de 21 points. C'est plus du tout la même chose pour Fabio Quartararo, les courbes qui se sont donc un petit peu inversées. Bon, il y a encore ce matelas pour Fabio Quartararo, faut se rappeler aussi que l'an passé, il s'était déjà imposé à Silverstone, donc voilà, c'est un circuit qu'il aime bien, et peut-être a-t-il des chances, pourquoi pas, de s'imposer de nouveau cette année. En tout cas, ça sera la douzième levée sur 20 de ce championnat du monde. C'est vrai que s'il s'imposait demain, il reprendrait une avance relativement confortable au classement général.
Et Quartararo aura un petit déficit demain, parce qu'il y aura une pénalité pendant le Grand Prix.
Absolument. Alors, je te parlais de ce Grand Prix des Pays-Bas, Timothée, fin juin, le dernier avant la longue trêve hein, qui vient de s'écouler, une trêve de 5 semaines. Quartararo ne finit pas ce Grand Prix suite à une chute, mais un peu plus tôt déjà dans le Grand Prix, en fait, il avait déjà chuté suite à une manœuvre un petit peu dangereuse. Il avait quasiment emporté avec lui Alex Espargaro. Les commissaires avaient expliqué, même si Espargaro finalement n'avait pas chuté, mais bon, avait été rétrogradé en 15e position avant de finir finalement 4e de ce Grand Prix. Les commissaires avaient dit, bon ben là c'est pas possible, on est obligé de pénaliser Fabio Quartararo, puisque voilà, sa manœuvre était illicite, sa manœuvre était dangereuse, et sa manœuvre a pénalisé son dauphin. Donc ce qui va se passer demain, c'est qu'il va écoper dans le long lap, c'est-à-dire que dans l'un des 3 premiers tours du Grand Prix, il va devoir rallonger sa distance, si tu veux, pendant un de ces 3 premiers tours, une distance qui va être rallongée de quelques secondes, où en fait on va lui demander de prendre un virage beaucoup plus large avec des lignes matérialisées au sol. C'est l'une des nouvelles pénalités voilà qui ont surgi ces dernières saisons en moto GP. Ça va l'handicaper de quelques secondes, donc déjà départ quand même en deuxième ligne. Il risque de prendre dès le premier tour donc ce long lap. Il s'est entraîné hein, pour tout vous dire, à le prendre lors des essais libres. Il s'est entraîné pour vraiment évaluer sa trajectoire. On a vu d'ailleurs des images assez amusantes, donc on le voit passer entre ces lignes.
Concrètement, ce long lap, ça se fait perdre combien de secondes sur
ça
un tour?
Ça te fait perdre ça te fait perdre 4 ou 5 secondes je pense, mais bon, c'est une manœuvre qui est un petit peu embêtante parce qu'elle demande déjà de partir.
C'est pas
à
le tour de pénalité du biathlon quoi.
Non, c'est pas tout à fait, mais bon, c'est un peu le même principe, tu vois,
principe,
si on devait on pourrait établir que c'est un principe similaire effectivement au tour de pénalité en biathlon quand on rate sa cible. Mais voilà, on prend à l'extérieur du virage, on prend un autre virage qui est matérialisé un petit peu plus loin, et voilà, on perd, allez, je dis 4 ou 5 secondes, mais sans doute plus, parce qu'il faut aussi reprendre derrière sa vitesse, donc probablement plus.
Un dernier mot sur un nom qu'on a beaucoup évoqué depuis le début de ton intervention, celui d'Espargaro, c'est le dauphin donc de Quartararo. Est-ce que tu peux nous donner un peu le pédigré de ce pilote?
Ah bah, c'est un pilote qui a gagné quand même une victoire hein, depuis le début de la saison. C'est un garçon vraiment qui est excellent hein, puisqu'il est quand même 21 points au championnat de Fabio Quartararo. En revanche, la mauvaise mauvaise nouvelle pour Alex Espargaro. On l'a vu tout à l'heure lors de la quatrième séance d'essai libre. C'est qu'il a, il a chuté de manière assez, assez impressionnante. Il a été diagnostiqué apte par les médecins à continuer le Grand Prix, à ne serait-ce que prendre part aux qualifications, mais ça aurait pu être très problématique. On l'a vu d'ailleurs, il était encore un petit peu ankylosé, il était encore un petit peu engourdi, on va dire, dans les premiers tours de qualification. Finalement, il signe le cinquième temps de cette, le sixième temps pardon, de cette séance de qualif. C'est un moindre mal pour Alex Espargaro qui va pouvoir prendre le départ.
Effectivement, c'est des chutes à digérer dans des week-ends comme celui-là. On suivra ça évidemment demain pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Merci beaucoup Arnaud Souk d'avoir été avec nous. On retourne à Geoffroy Guichard. Il reste un quart d'heure de jeu entre la Saint-Etienne et Nîmes. Damien Tardieu.
Ouais, on est rentré dans le dernier quart d'heure depuis 40, depuis une minute. Allez, 14 minutes à jouer, un partout toujours. Mais les Verts qui ont eu des occasions. Attention, ce sont peut-être les Nîmois là qui vont se montrer dangereux. Giraudon qui va pouvoir pousser finalement vers Étienne Green qui peut dégager deux occasions pour les Verts. Deux tentatives lointaines finalement parce que les Verts ont toujours autant de mal dans la construction et à se montrer dangereux dans les 16 mètres adverses. Une de Gabriel Silva claqué de manière peu académique par Lucas Diaz. Et puis ensuite c'est Giraudon sur un ballon mal dégagé qui a plus de 35 mètres. C'est essayé une frappe légèrement extérieure, bien tendue, quasiment à ras du sol. Et là Lucas Diaz a eu la main ferme, le portier nîmois, pour sortir ce ballon. Allez, on va pas dire que la pression s'intensifie sur les Nîmois, mais c'est un peu mieux pour les Stéphanois qui s'en remettent donc à des frappes de loin pour essayer d'empocher la mise. On rappelle Saint-Etienne, moins 3 points avant le début de cette partie, ça ferait moins 2 et ça pourrait potentiellement les mettre déjà à 8 points des leaders après cette journée. Les Nîmois, eux, ils avaient perdu leur premier match dans les arrêts de jeu face à Caen 1-0. Ça serait un premier point glané ici à Geoffroy Guichard. Pour l'instant, il reste 13 minutes à l'une ou l'autre des équipes pour faire la décision. Un but partout, on rappelle Thomasen pour l'ouverture du score, l'égalisation de Crasso pour les Verts.
Oui, on rappelle que les Stéphanois passeraient de moins 3 à moins 2 points en cas de point du match nul, puisqu'ils auraient copé de 3 points de pénalité en début de saison suite à des incidents qui avaient eu lieu en toute fin de saison dernière lors des matchs de barrage face à l'AJ Auxerre. On revient dans un instant dans l'intégral sport. On va se pencher pour de bon, la tête et les deux pieds en avant, sur le Strasbourg-Monaco. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Timothée Mille.
16h38, de retour dans l'Intégral Sport. On va se pencher sur la rencontre de cet après-midi entre Strasbourg et Monaco. Et pour nous rejoindre, un membre de la Dream Team RMC, Manu Amoros. Salut Manu.
Salut, bonjour à tous, bonjour Timothée.
Comment ça va Manu?
Ah bah écoute, ça va très bien. Très bien.
Alors, tu es à Strasbourg, mais t'es pas au match.
Non, je suis pas très loin de Strasbourg. Je suis à... Alors, je vais essayer de te le prononcer, mais correctement, Erkartwiller. Erkartwiller.
Erkartwiller.
Excuse-moi pour la prononciation, ouais.
Ouais.
Mais voilà, je suis pas très loin. Je suis à une heure de Strasbourg, ouais.
Et ben voilà. Et t'hésiteras pas à passer faire un petit coucou à Sébastien Ruffet et Patrick Muller, qui sont également avec nous, qui sont au stade de la Méno pour nous faire vivre cette rencontre. Salut, messieurs.
Salut, à nouveau, Timothée. Salut, Manu. Excellente prononciation.
C'est pas mal. Ah, ben, merci.
Bravo.
Et dis-moi, je me suis entraîné quand même, hein, parce que c'est pas facile de prononcer les noms des petits villages de votre région.
Il suffit de faire lettre après lettre. Hein.
Ouais, il y a pire. C'est ça. Ouais. T'as aussi Souffel-Weyersheim. Hein,
ah, Souffel-Weyersheim, ouais. Bien sûr. Sublime petit village. Village de vin également. À consommer avec modération ou avec des copains. Ou les deux. Messieurs, un rappel de la composition des équipes, parce que j'aimerais l'avis de Manu Amoros sur la composition. Oui. On va commencer avec celle de Strasbourg.
Allez, Strasbourg, bah, c'est la compo qui est attendue. Hein. Matzels dans le but, bien sûr. La défense à 3, on la retrouve avec Djikou, Niamsi, Perrin. Le piston gauche, ce sera Dimitri Liénard. Le piston droit, Ronald et Pierre Gabriel. Les trois joueurs du milieu de terrain, Sanin Persic et sa petite patte de velours, associée à Bellegarde et Thomasson. Et devant, le duo Ludovic Ajorc, Habib Diallo.
Manu, il n'y a pas vraiment de surprise dans cette composition. Non. Peut-être la présence de Ronald Pierre Gabriel, mais enfin, c'était quand même relativement prévisible. Ouais. C'est logique pour toi après la bonne saison strasbourgeoise de l'année dernière?
Oui, c'est logique que l'entraîneur strasbourgeois reste dans la même optique tactique, puisque à l'aperçu de ballon, il se replace, je pense, à 5 derrière et 3 milieux de terrain très travailleurs. Et à la récupération, bah, il se projette, les deux qui sont en piston, Liénard et
Pierre Gabriel,
ils se projetteront plus davantage vers l'offensive.
La composition monégasque.
Allez, on y voit un tout petit peu plus clair par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut préciser deux choses rapidement. C'est que Philippe Clément doit faire tourner parce qu'il y a pas mal d'absents et parce qu'il y a ce match importantissime de troisième tour de qualification mardi au PSV Eindhoven, match retour, ce qui nous donne a priori un 4-2-3-1 avec dans les buts Neubel, Jacobs, Maripan, Dissassi, le capitaine Aguilar en défense, Youssouf Fofana, ancien Molégas, ancien Strasbourgeois, pardon, et Jean-Lucas à ses côtés, Gelson Martins à gauche, à droite, Diata qui revient de blessure, et a priori donc Mbolo seul en pointe, ça c'est sûr, et peut-être Sofiane Diop en soutien de l'international suisse qui, on le rappelle, est une des deux recrues pour l'instant de l'AS Monaco de cette intersaison.
Manu, on ne s'attendait pas nécessairement à ce 4-2-3-1, nécessité fait loi avec les absences aussi des uns et des autres. Qu'est-ce qui attire ton attention dans ce dispositif et dans cette compo?
Moi, ce qui m'attire, c'est qu'il y a quand même une équipe compétitive. Je crois que Monaco a des arguments à faire valoir encore avec cette équipe-là. Clément a fait énormément au niveau du recrutement pour avoir une équipe où tous les postes soient doublés. Donc non, moi je trouve que Monaco est une belle équipe sur le papier. Bon, on aurait peut-être aimé voir Ben Yedder aussi à côté de Mbolo, mais bon, après c'est un choix, mais je pense qu'il rentrera sûrement en deuxième mi-temps.
Mbolo, tu connais un petit peu Manu?
Pas trop, non, pas trop.
Ça fait partie des curiosités de ce début de saison. Un joueur qui avait fait les belles heures de balle, même si à l'époque il était. Voilà, c'était une grosse pépite, un espoir du football suisse, qui avait parfois des problèmes avec l'autorité, et puis il y a eu ces années à Schalke un petit peu difficiles, et avec le Borussia Mönchengladbach ça a été nettement plus convaincant. Il y est allé de 2019 à 2022, 25 buts en 106 matchs. C'est une des curiosités que tu as envie de suivre, Manu?
Oui, bien sûr, parce que c'est toujours attrayant d'avoir des joueurs nouveaux du championnat français. Et puis bon, Monaco généralement ne se trompe pas trop au niveau du recrutement, donc ça doit être un joueur attractif de notre championnat, et il faudra le suivre tout le long de ce championnat parce qu'il est compétitif à ce niveau-là.
Monaco ne se trompe pas trop, attention tout de même au précédent Boisdou, hein, parce qu'il ne nous a pas convaincus la saison dernière. Ouais, mais
sur l'ensemble quand même il ne se trompe pas trop.
Effectivement,
on peut se tromper dans le recrutement, on peut passer à travers sur certains joueurs, mais là je pense que Mbolo a des qualités pour pouvoir être une très 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 bonne doublure à Ben Yedder.
Et il arrive avec peut-être un peu plus de référence aussi que Myron Boisdou, plus jeune et qui était plus on va dire un espoir pour le football monégasque. Messieurs, et notamment je me tourne vers toi Patrick, cette équipe de Monaco, elle va devoir être capable de faire abstraction d'une double confrontation face au PSV qui est pourtant essentielle. Ils ont joué cette semaine, match nul, un but partout, il y aura un match retour, évidemment la saison monégasque dépend en grande partie de cette qualification pour la Ligue des Champions, et pourtant il va falloir bien se concentrer sur ce match.
Bien sûr, alors évidemment il faut bien partir dans ce championnat parce que c'est quand même le nerf de la guerre quoi qu'on en dise, mais clairement entre ce match-là et le retour du côté du Philips Stadion, bon, on peut quand même considérer que les Monégasques vont surtout prioriser le deuxième, hein, qui va conditionner, tu l'as dit, leur avenir européen, même s'il faut être prudent parce que quand bien même ils passeront ce tour, c'est pas encore acquis la Ligue des Champions, hein, une participation directe, puisqu'on aura ensuite des barrages soit entre les Glasgow Rangers finalistes de la Ligue Europa et ou alors les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Pour l'instant c'est l'Union Saint-Gilloise qui tient la corde, hein, qui sont imposés,
qui sont sacrément étonnants parce qu'ils sont montés l'année dernière deuxième directement du championnat belge.
Et ils ont fait sensation, ils ont remporté la saison régulière effectivement de la Jupiler League. Donc oui, évidemment pour Monaco il faut entretenir la dynamique, si je puis dire, parce que bon, le résultat n'était pas bon, faut être clair, par rapport à ce match aller, un match nul un partout à domicile, mais il y a eu du contenu, il y a eu un manque d'efficacité, il y a eu un Sofiane Diop qui a été intéressant quand il est entré, d'ailleurs il va être titulaire sur ce match là et moi j'aurais envie de dire aussi qu'il y a des garçons qui ont des points à prendre. Je pense à un Gelson Martins qui reste, quoi qu'on en dise, malgré son talent naturel, allez, je vais pas dire un intermittent du spectacle, mais quelqu'un qui doit gagner en régularité.
Un peu avec le frein à main parfois, de prendre
bien sûr, quelqu'un comme Sofiane Diop, bah voilà, qui a peu joué au cœur de cette saison, cette période faste de 9 victoires consécutives là sur la fin de saison de l'AS Monaco, qui a été absolument titanesque.
Crépin Diata également qui revient de sa grande blessure et qui va vouloir aussi bouleverser un petit peu les hiérarchies qui sont mises en place en son absence. Donc oui, effectivement, il y a des joueurs qui doivent se montrer. Hein.
Et ça reste un match face à une bête noire. Voilà, je te fais une phase décisive, Seb, parce que c'est vrai que le Racing Club de Strasbourg, sur les 8 dernières confrontations, l'AS Monaco ne s'est imposé qu'une seule fois. Ça doit être un challenge. challenge quand même dans cette opposition-là entre les deux équipes finalement.
Oui, et puis alors aussi un autre chiffre, c'est que c'est quand même la 102e confrontation entre ces deux équipes. C'est deux vrais clubs habitués de la Ligue 1. On le disait tout à l'heure, 62e saison dans l'élite pour Strasbourg, la 65e pour l'AS Monaco. Monaco qui a toujours, on va dire, historiquement dominé Strasbourg.
Mais il y a plus longtemps que ça.
Il y a plus longtemps que ça. Il y a plus longtemps que ça parce qu'effectivement, tu l'as dit, sur les 8 dernières confrontations, 5 victoires strasbourgeoises, 2 nuls et une victoire monégasque. Donc attention. Et puis on le redit, ce chiffre également, cette équipe de Strasbourg qui est invaincue en 2022 à domicile, qui reste sur 9 matchs sans défaite ici à la Méno, 6 victoires, 3 nuls. Il n'y a que Paris qui fait aussi bien en étant invaincu en 2022 à domicile. On se rappelle également de la série de Monaco pour finir la saison. Donc si on garde un peu les mêmes dynamiques, on a tout pour avoir un match assez extraordinaire cet après-midi, puisque finalement Monaco est aussi invaincu depuis le 13 mars et une défaite ici même à la Méno. Strasbourg est la dernière équipe à avoir battu Monaco, puisque Monaco a fait un partout contre Eindhoven.
But d'Alexander Djikou.
À l'époque, un but fabuleux. D'ailleurs, on l'a revu sur les écrans tout à l'heure, le ciseau retourné. Et c'était la période faste du Racing Club de Strasbourg avant que Monaco
messieurs,
enchaîne.
Mais messieurs, vous êtes dans les stats là, mais vous oubliez que Strasbourg n'a pas réussi à gagner son premier match championnat depuis la saison 2017-2018, à domicile.
Oui. Sébastien Ruffet, on l'entend moins.
Effectivement, oublié, celle-là, non
duel de statistiques. Duel de statistiques.
J'allais te dire, il faut pas trop se méfier aux stats parce que fois, elles veulent rien dire.
On va tout de même, messieurs, si vous le voulez bien, écouter Philippe Clément.
Désolé de vous avoir mis ce petit grain.
Ah non, mais t'es là pour ça. Tu es là pour ça, Manu.
Évolution de ce match-là.
On va écouter Philippe Clément sur la capacité, le devoir même de l'AS Monaco d'être capable de passer de ce match européen à celui de la Ligue 1.
Mais c'est toujours trouver les choses pendant les matchs. Ça reste le plus important. Je veux chaque jour un niveau très haut à l'entraînement. Je veux engagement dans toutes les choses qu'on fait. Mais je veux encore plus pendant les matchs. Et avec Strasbourg, c'est un grand défi. Hein, parce que, OK, j'ai vu tous les stats. J'ai vu que Monaco a eu beaucoup de difficultés les dernières années, les derniers matchs contre Strasbourg. Chaque fois, c'est un grand défi pour changer ces stats.
Messieurs, on revient dans un instant pour vous voir, pour parler cette fois de Strasbourg. On sent que ça démange Sébastien Ruffet, sa langue bien pendue. On va juste faire un rapide tour, le score entre l'AS Saint-Etienne et Nîmes à Geoffroy Guichard.
Il reste 2 minutes 30 dans le temps additionnel, toujours un but partout entre Saint-Etienne et Nîmes.
Merci Damien Tardieu. Nous on revient dans quelques instants pour continuer à parler de ce match entre Strasbourg et Monaco, pendant que Sébastien Ruffet et Patrick Muller se déhanchent, j'en suis certain.
Bien sûr. RMC Intégral Sport,
Timothée Nîmes.
16h55 dans l'Intégral Sport. On va évidemment continuer à se pencher sur l'avant-match de cette rencontre entre Strasbourg et l'AS Monaco. On est avec Emmanuel Amoros, notre légende et notre membre de la Dream Team RMC Sport. On est également avec Patrick Muller et avec Sébastien Ruffet. La parole est à toi, Sébastien. Tu en crevais d'envie. Explique-nous ce qu'il faut savoir sur cette équipe de Strasbourg pour ce début de saison. Acte 2 pour le coach Stéphan.
Ouais, acte 2, effectivement. Quelles ambitions on peut avoir après une saison achevée à la 6e place aux portes de l'Europe, avec un total de points historique, avec un jeu qui a souvent été flamboyant, avec une Méno pleine. Est-ce qu'on peut faire mieux? C'est la question. Est-ce que la saison dernière, ça n'a pas été la saison de tous les rêves et de tous les possibles? Strasbourg peut-il s'installer dans cette première partie de tableau, continuer à être au niveau de Rennes, de Lille, de Nice, de Monaco? Voilà, c'est la grande question. Alors l'effectif a pour l'instant très peu bougé, ce qui permet de t'envisager des choses un peu plus fluide en début de saison. On se rappelle que la saison dernière le mercato avait été très tardif. Là cette saison, pour l'instant, il y a assez peu de mouvements. Anthony Cassi avait déjà annoncé dès cet hiver qu'il partait, donc on a activé la piste Thomas Delaine côté Metz pour le remplacer. Dimitri Lénaire de toute façon est toujours là sur son côté gauche. À droite, Fred Gilbert est parti. Carole Fila, malheureusement, lui souffre d'une pubalgie. Il a donc fallu réagir avec le prêt de Colin Dagba, le parisien, et l'avenue également après un petit pépin physique également pour Colin Dagba de Ronald Pierre Gabriel en provenance de Mayence pour alimenter ce côté droit. Pour l'instant, ça ne bouge pas niveau effectif. On sait qu'Alex Djikou va peut-être partir. Ludovic Ajor, qui a aussi pas mal de belles cylindrées européennes qui le suivent avec attention. Donc peut-être que les dernières semaines du mercato feront un petit peu bouger les lignes. Mais l'avantage, c'est que Strasbourg devrait en tout cas proposer quelque chose de consistant dès le début de saison et éviter comme la saison dernière de perdre trop de points sur les premières semaines. Donc de quoi se mettre dans une bonne dynamique et pourquoi pas revenir fréquenter cette première moitié de tableau. On va s'en tenir là, on a peut-être un point de vue ambition parce que on en parlait tout à l'heure. C'est compliqué quand vous avez 45 millions de budget de venir dire oui on joue l'Europe, forcément.
Un seul amour en tout cas.
Même si le COP a déployé un typo absolument magnifique. Un seul amour, ainsi comme de Strasbourg, vous connaissez l'adage. Et c'est vraiment superbe. Et l'ambiance à la Méno, en tout cas,
incroyable.
Ça, clairement, va rester une des plus belles de France. Ça, c'est clair et net.
Manuel Amoros, qu'est-ce que tu attends de cette équipe de Strasbourg? On parlait de ce budget relativement modeste, 45 millions d'euros. Et pourtant, avec la saison dernière, on a envie de placer Strasbourg, peut-être dans le premier tiers.
Oui, on peut espérer, mais il faut pas oublier que l'année dernière, Lyon était dans une mauvaise passe. Il y avait Lens aussi qui n'a pas fait non plus un championnat qu'on escomptait. Bon, ça c'est leur faute, hein, c'est pas la faute à Strasbourg. Je crois que la continuité, c'est le beau jeu que Strasbourg doit proposer encore. Avoir des ambitions, bien sûr, faut avoir des ambitions d'aller encore plus haut que l'année dernière. Mais je pense pas que l'entraîneur et le président soient dans cette ambition. Je crois que ils vont prendre les matchs les uns après les autres et après on verra dans la deuxième partie de championnat où Strasbourg se situera par rapport à cette ambition si vous voulez secrète, parce que bien sûr que comme Sébastien il a dit, on a envie de voir Strasbourg plus haut parce que l'année dernière ils nous ont quand même régalé dans ce jeu, dans ils ont marqué énormément de buts, il y avait énormément de qualité, les joueurs étaient solidaires les uns les autres, voilà, on a envie, mais je pense que l'entraîneur et le président, je pense qu'ils ne se projettent pas au-delà du maintien pour l'instant, à mon avis.
Merci Manu, tu restes évidemment avec nous tout au long de cette rencontre. Messieurs, le coup d'envoi devrait être donné logiquement dans une trentaine de secondes. La parole est à vous, faites-nous vibrer, faites-nous ressentir l'atmosphère de la Méno.
Ambiance absolument folle, mon cher Timothée. 26 000 personnes, Seb à peu près, je pars sous ton contrôle.
C'est un guichet fermé, hein, c'est annoncé depuis une semaine. Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce retour évidemment au stade de la Méno après la saison passée. Et forcément ça s'est rempli très très vite, les abonnements sont partis très vite également, les 19 000 abonnements. Donc voilà, forcément l'ambiance est belle, le terrain est bon malgré la sécheresse, on le rappelle évidemment, il y a des restrictions d'eau partout pour tout le monde. Et c'est parti,
le coup d'envoi
par François Le Texier ici au stade de la Méno avec le ballon pour les Strasbourgeois.
Et un premier ballon aérien qu'a tenté de négocier à Ajor Kola, mais ça va revenir jusqu'à Ruben Aguilar côté droit, côté monégasque, hein, dans ce 4-2-3-1, on le rappelle, aligné par Philippe Clément. Et un premier bon ballon dans la profondeur pour Sofiane Diop, pas de hors-jeu, Sofiane Diop qui tergiverse, oh qui frappe à côté. Ah si, le drapeau qui s'est levé un petit peu tardif. Mais voilà, un premier ballon dans le dos de la défense et gros frisson sur ce premier ballon en faveur de l'AS Monaco.
Et première indication sur ce Brel et Bondo qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup vu à l'œuvre. Beau gaillard, beau bébé qui a résisté à la charge de Djikou pour contrôler ce ballon en pivot et envoyer Sofiane Diop qui va se rapprocher de lui. Voilà, on voit le dispositif un peu plus clairement maintenant par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure.
Il va être en 9,5 après
le 4-2-3-1, effectivement, avec un Sofiane Diop relativement proche des Bondo et qui a profité du bon travail de son attaquant pour partir dans le dos de la défense strasbourgeoise.
Sébastien, tu vas gentiment me l'appeler Mbolo. Mbolo, parce que Albin et Bondo, ça fait un moment que j'ai plus de nouvelles. S'ils nous écoutent, Albin, appelle le 32-16. On veut tes nouvelles, Albin et Bondo, ancien Toulousien, ancien Stéphanois. En attendant, Mbolo. C'est bien Brel Mbolo qui est sur la pelouse.
Ouais, écoute, je lance ma saison comme tout le monde. Hein.
Voilà.
Je digère un peu la prépa.
Gelson Martins, là, je reviens au jeu, messieurs. Hein, pardon d'être premier degré. La grosse intervention, le gros tampon là, de la part de Gelson Martins. On loue souvent ses capacités de dribbleur. Bah, il sait mettre aussi le gabarit quand il faut, même si le ballon est récupéré par les Strasbourgeois. Alban a Ebondo. Il a Bondo. Bon, j'arrête, c'est jeu de mots complètement raté. Encore une fois, quand c'est pas spontané, quand c'est préparé, ça fonctionne pas. En tout cas, on est parti sur un bon rythme avec une équipe de Strasbourg qui va pouvoir partir de sa base arrière. 2 minutes de jeu pour l'instant à la Méno. Et encore une fois, un début match plutôt en ballant.
Ouais, avec des Monégasques qui clairement ont pris l'option d'aller chercher assez haut les Strasbourgeois. Il y a vraiment l'ambition d'enclencher un pressing assez rapidement pour pas les laisser s'organiser. Et notamment dans le secteur de jeu de Persic Bellegarde, on sait que ça part souvent de leur qualité de passe et de relance. Attention, la tête ratée de Niamsi a profité à Mbolo justement en relais avec Jason Martins. Mbolo qui va pouvoir peut-être passer, il va se heurter à Djikou, mais c'est pas fini avec Jason Martins sur le côté gauche qui rentre dans son phase de réparation. Seul face à 3 Strasbourgeois, il va pouvoir donner à Jacobs le centre qui sera contré par la barre Ronel Pierre Gabriel. Le premier corner de cette partie pour les Monégasques après 2 minutes 20 de jeu.
Il va y avoir quelques beaux duels quand même, hein, entre effectivement, on l'a dit, ce garçon qu'on découvre, Mbolo, international suisse, 25 ans, venu de Borussia Mönchengladbach, Schalke précédemment, quelques jolis états de service en Suisse, mais on voit qu'il y a du gabarit. En effet, il y a de la puissance physique et il y a eu l'intelligence là de Jelson Martins de ne pas centrer directement parce qu'il y avait 3 joueurs face à lui, de revenir derrière vers Jacobs qui a pu armer un centre et obtenir un premier corner. C'est Sofiane Diop, je pense, pour le frapper. Il est frappé, sorti de la tête par Dimitri Liénard et remis en jeu pour l'AS Monaco en position haute, quasiment à hauteur de la surface de réparation de Strasbourg.
La 10e saison de Dimitri Liénard ici au Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Il n'y a que Verratti côté Paris et Anthony Lopez côté Lyon qui font mieux avec 11 saisons consécutives. Donc voilà, c'est évidemment le capitaine, c'est évidemment un joueur qui compte énormément dans le cœur des supporters. Il a accompagné toute la remontée du club depuis l'arrivée en national et jusqu'à la Ligue. Allez, récupération de Sandy Persic, enfin une récupération des Strasbourgeois avec Thomasson. Ça manque un petit peu de solution, il va peut-être devoir repasser avec Sandy Persic. Il va falloir maîtriser un peu le ballon là face au pressing monégasque qui s'enclenche assez rapidement. Le ballon dans les pieds de la défense strasbourgeoise avec Lucas Perrin là-bas à droite.
Ouais, Perrin, transfert définitif en provenance de Marseille, lui qui était prêté la saison dernière, l'air de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais il a fait sa saison. Peut-être moins spectaculaire qu'un garçon comme Niamsi qui a été juste gigantesque l'année dernière, mais c'est un renfort important pour l'équipe emmenée par Julien Stéphan avec un premier relais là entre Habib Diallo et Ludovic Hajork. Le ballon qui revient dans les pieds du capitaine strasbourgeois Dimitri Liénard qui change tout là-bas jusqu'à Bellegarde, le contrôle qui est un petit peu raté. Je pense qu'il a tenté la remise directe, ça n'a pas marché, mais le ballon qui reste pour Strasbourg avec Perrin précisément.
Perrin qui sent Disasi qui repousse, c'était un petit peu raté mais il a un petit peu de réussite. Même ses ballons récupérés par Persic, la frappe lointaine et ça va dans les bras d'Alexander Nubel. Voilà la frappe de Salim Persic, il en avait régalé quelques-unes la saison dernière, à chaque fois c'était passé à quelques centimètres de la lucarne. En match amical il l'avait enfin placé sa frappe à 25 mètres pleine lucarne, donc il a trouvé la mire et là elle était cadrée me semble-t-il cette frappe.
Oui, tout à fait.
Nubel qui se détend, bon, il était quand même sur la trajectoire, l'arrêt est plus spectaculaire que vraiment compliqué. Il se rassure aussi le gardien allemand de l'AS Monaco, mais attention parce que Persic, on sait qu'il a une vraie qualité de frappe.
Manu, t'as dû aimer la tentative de Persic.
Superbe frappe, un petit peu trop molle à mon avis au niveau du gardien, mais j'ai l'impression que les Strasbourgeois ne s'attendaient pas à ce début de match des Monégasques où un pressing assez haut, constant. Les Strasbourgeois ont perdu les ballons un peu trop facilement et se sont mis en difficulté sur des situations où les Monégasques auraient pu en profiter.
Ouais, c'est juste 5 minutes de jeu ici et c'est effectivement un des premiers constats qu'on peut faire dans cette rencontre qui pour l'instant est enthousiasmante avec une équipe de Monaco qui est positionnée haut et qui gêne pour l'instant la construction strasbourgeoise. Attention à ce coup franc, Dimitri Liénard pour le frapper dans le dos de la défense, c'est bien fait, ça va être récupéré peut-être et dégagé par Martins sur son côté. La transmission vers Jean Lucas et une faute commise par les Strasbourgeois et du côté de Monaco. On va calmer un tout petit peu le jeu, mettre le pied sur le ballon, non même pas finalement parce que Axel Disasi, capitaine aujourd'hui, non c'est pas Disasi sur ce coup là maintenant il est servi Disasi qui est capitaine en l'absence, on le rappelle, de Wissam Ben Yedder qui est préservé, qui est sur le banc préservé par Philippe Clément, encore une fois avec la perspective de cette échéance extrêmement importante, ce match retour en troisième tour qualificatif du côté du PSV Eindhoven, ce sera mardi. Attention à ces pertes de balles côté monégasque et les Strasbourgeois qui peuvent enchaîner avec Thomas.
Thomasson qui réussit à percer plein axe avec Bellegarde sur le côté droit. On va servir Pierre Gabriel là-bas face à Jacobs. Le petit crochet, ça va passer. Finalement, ça se referme devant lui. On va chercher l'une, deux, mais il y aura. Non, pas de faute signalée par l'arbitre qui va signaler une faute contre le Monégasque. Ça, c'est étonnant parce qu'Adrien Thomasson avait été un petit peu balancé sur la première action. Et puis derrière, il y a peut-être un pied strasbourgeois qui traîne un petit peu pour empêcher la relance monégasque. Et Fabien Le Texier qui décide de rendre le ballon finalement au monégasque. Ça peut être finalement aussi une stratégie de la part de Philippe Clément de mettre beaucoup de rythme tout de suite pour essayer peut-être de contrôler après un peu plus le match pour faire tourner sur la deuxième mi-temps, allez savoir. En tout cas sur le banc monégasque, on a Vanderson qui peut rentrer, on a Ben Yedder qui peut entrer également, ramener quelque chose. Christian Matsima, mais après pour le reste c'est quand même très très jeune, Patrick.
Bon, hein. C'est la classe très, très jeune, bon, vraiment c'est une moyenne d'âge de à peine 20 ans avec pas mal de garçons qui évoluent à l'académie hein, de l'AS Monaco. Il y a aussi un garçon comme ça qui vient de signer hier, hein, pas plus tard qu'hier, son premier contrat professionnel, c'est Ben Seguir. Félix Le Maréchal, 19 ans, Magassa, 19 ans également. Voilà, il y a des garçons qui sont tout jeunes. Et il y a une situation là où un Monégasque est au sol.
Il y avait un choc là sur un duel aérien entre, entre c'est Lucas Perrin et Sofiane Diop là, qui est venu lui taper dans, dans l'arrière du crâne, mais vraiment tête contre tête. Hein. Il y a pas de, c'est pas le coup ni rien du tout, c'est vraiment le, un choc tête contre tête. Et Diop il, est, il le prend sur l'arrière du crâne, il ne le voit pas venir en plus. Alors on voit Perrin qui se tient lui le front et Diop qui se tient l'arrière, l'arrière de la tête. Il est resté un petit peu au sol là, le milieu monégasque. Donc l'arbitre va lui demander de sortir pour souffler un petit peu. Parce qu'il avait dû arrêter le jeu, c'est la règle, c'est comme ça. Donc il va pouvoir se rafraîchir. On voit déjà les premiers joueurs. Hein. Dimitri Lénard demandait une petite bouteille d'eau après seulement 7 minutes de jeu.
C'est pas extrêmement chaud pour autant.
Ouais, après là,
oh, c'est supportable.
On est bien là, 27 degrés à l'ombre, mais c'est vrai que sur le terrain, ça, ça chauffe vite.
Et il y a de l'intensité surtout.
Il y a quand même déjà beaucoup d'intensité dans ce début de match.
Ouais. Manuel, on a vu cette semaine en Coupe d'Europe ce dispositif monégasque avec Voland et Ben Yedder devant, même si on peut estimer que par moment Voland décroche un petit peu et joue dans cette position de 9,5 dans laquelle est Sofiane Diop aujourd'hui. Après seulement quelques minutes de jeu, ta position sur ce système monégasque qui semble, j'ai envie de dire, et ça frappe, et c'était frappant lors du match de Coupe d'Europe, qui semble difficile à tenir depuis le départ de Tchouaméni en fait, parce que ça manque un petit peu de talent dans l'entrejeu et de. Et
bon,
de...
Attention parce qu'il y a Gilson Martins qui va partir au but, bien servi, et il
c'est
va servir
à Diop.
Attention parce que ça a glissé, il relâche le ballon, peut-être une deuxième chance, Tandjikou qui va revenir. Alors on s'est trompé côté monégasque là, parce qu'il y avait un face-à-face à jouer pour Gilson Martins.
Et un appui de trop hein, de la part de Sofiane Diop. Et c'est la même situation si vous vous rappelez par rapport à ce hors-jeu en tout début de match où Gelson Martins était parti dans le dos de la défense. Attention, attention côté Strasbourgeois, cette vivacité hein.
Ils se sont alignés Manu, ils se sont alignés très très haut là, les Strasbourgeois sur cette action.
Ouais, ils se sont alignés trop haut. Et puis il y a je crois qu'il y a un défenseur sur le côté gauche là qui s'est Oliénard ou je sais pas qui s'est pas aligné. Et à un moment donné, les deux centraux montent, lui il fait semblant de monter mais il reste à sa place. Donc il y a eu une hésitation et ça s'est créé en occasion énorme parce que je crois que c'est Diop hein, qui fait un mauvais contrôle.
Tout à fait.
Mais comment on peut faire un mauvais contrôle dans cette position-là?
En plus, ils sont deux hein, avec Gelson Martins et Diop qui prend le ballon et finalement.
Je pense que Gelson Martins intelligemment laisse le ballon en se pensant peut-être en jeu. Il ne prend pas le risque.
C'est vrai.
Et c'est vrai que Diop arrive lancé comme une fusée, mais il oublie d'appliquer son contrôle.
Il fait un mauvais contrôle. Il fait un mauvais contrôle. Bon, ça arrive, hein. Il ne faut pas croire non plus. Hein.
Pour autant, Manu, Diop, il est sur les deux bonnes situations monégasques, dans cette position de 9,5, de 10, je ne sais pas trop comment le définir.
Ouais, moi je l'aime bien comme ça, parce que l'année dernière, on l'a souvent vu sur les côtés, et il a mené, mais pas autant que le potentiel qu'il a. Je pense que dans cette situation, dans cette position-là, on le sent plus à l'aise, que ce soit technique, dans la vision du jeu, dans la distribution du jeu, et c'est un poste qui peut lui convenir mieux que être sur les côtés.
Attention à cette montée de balle là pour les joueurs de l'AS Monaco avec Gelson Martins qui est en jambe. Le petit centre piqué, ça va être un peu trop profond. Et Dimitri Lienard qui intelligemment laisse filer ce ballon. Il était à destination de Mbolo. Une belle frappe de la part de Persic. Deux situations. Allez, qu'on va dire assez franche quand même, très chaud, en tout cas, à tout le moins pour l'AS Monaco. 10 minutes de jeu et un premier match qui pour l'instant tient plutôt ses promesses.
Les Strasbourgeois un peu fébriles hein,
défensivement,
en défense, hein.
Tout à fait.
Ah oui, défensivement complètement.
Il y a une chose intéressante aussi, Manu, tu me diras ce que t'en penses, mais sur l'impact physique de Mbolo, en fait, il fixe tellement la défense strasbourgeoise qu'on sent que derrière il y a de l'espace, quoi. C'est-à-dire qu'il fait sortir ses défenseurs strasbourgeois et derrière on voit Martins, Diop, Diata plonger dans le dos. C'est très intéressant, quoi.
Ouais, c'est très intéressant. Mbolo fixe réellement, comme tu dis, les deux centraux. Et puis après, il y a des mouvements très importants, que ce soit de la part de Diop, que ce soit de la part de Martins. Et ça crée des espaces. Alors, et c'est là la difficulté de jouer avec deux pistons. Parce que quand on joue en 4-4-2 avec deux latéraux, là, on sait qu'on doit aller les chercher et on ne doit pas les laisser faire. Alors que là, c'est des situations un peu compliquées. Et le travail de Lienard d'un côté et de l'autre de Pierre
Gabriel.
Pierre Gabriel va être très très important.
Passe en retrait la deuxième si pour celle, ça sous la pression monégasque, c'était limite. Allez, on s'en tire bien sur ce coup-là côté strasbourgeois. 11 minutes 30 de jeu, Issa Lameno, toujours 0-0 entre Strasbourg et Monaco.
Merci messieurs, on revient dans un tout petit instant pour continuer à suivre cette rencontre qui est partie sur les chapeaux de roue entre Strasbourg et Monaco et dans une très belle ambiance de Lameno. À tout de suite.
RMC
Intégral Sport.